Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcan, les grandes entrevues de la semaine.
Il travaille encore deux jours par semaine.
Bonjour, désagréable vieillard.
Bonjour, serbe cruel.
Dans la catégorie hommage à nos aînés.
J'ai écrit quelques livres autrefois qui sont maintenant complètement oubliés.
Qu'est-ce qui se passe?
Le ministère de la Santé a décidé que les jeux vidéo étaient supérieurs à la lecture pour stimuler l'activité cérébrale des gens âgés.
C'est un jaune orange, c'est lui.
Je sais pas, mais je l'ai. On va appeler.
Allô?
Le film Testament de Denis Arcand prend l'affiche aujourd'hui à travers le Québec. Il est avec nous ce matin. Denis, bonjour.
Bonjour.
L'idée de départ, c'était quoi?
Je ne sais pas, parce que c'est très difficile de se souvenir de l'idée de départ. D'abord, ça fait 4 ans. Déjà, j'ai de la misère à me souvenir de ce que j'ai mangé hier. Donc, il y a 4 ans, je ne sais pas tout à fait. Je sais qu'il y a eu 2 ou 3 événements qui ont commencé à me faire réfléchir. Le premier, c'était justement une murale qu'il y a dans le musée d'histoire naturelle de New York. Un grand musée où il y a au sous-sol une peinture sur un mur qui décrivait l'arrivée des premiers colons hollandais sur l'île de Manhattan et qui ont rencontré des Amérindiens qui étaient là. Et là, un jour, se sont présentés des gens disant qu'ils étaient les héritiers de ces premiers Indiens-là et que ce tableau était une insulte ou en tout cas faussait la réalité. Etc. Ils ont demandé à ce que le tableau soit rectifié. Et donc, là, les conservateurs du musée ont mis une grande vitre, grande comme une vitre d'un grand magasin, là, qui couvre toute la toile, et sur laquelle il y a des petits textes écrits. Transparent, disant ici, probablement que ce n'est pas exact, car les costumes devaient être différents. Le bateau de l'explorateur était peut-être probablement pas ancré à cet endroit-là. Les canots des Indiens sont pas exactement ceux que les Indiens utilisaient, etc. Et donc, la peinture est rectifiée. Et puis ça m'a... Je sais pas pourquoi ça m'a interpellé, comme on dit, cette histoire-là. Puis je me suis rendu à New York, je suis allé voir le tableau. Puis là, je me suis mis à réfléchir à ça, puis je me suis dit... Mais là, on pourrait demander à ce que tout l'art soit corrigé, parce que l'art, c'est pas tout à fait correct tout le temps. Je sais pas, on pourrait aller voir la chapelle Sixtine, et puis Dieu, le Père, est représenté sous les traits d'un homme blanc âgé. Pourquoi? Ça pourrait être une femme noire, ça pourrait être n'importe quoi. Donc, on pourrait aussi mettre des vitres devant la chapelle Sixtine et corriger les interprétations différentes, et plein d'autres choses aussi. Bon, après ça, il y a eu tout ce mouvement-là dans l'art. Là, encore récemment, au musée de New York, il y a eu une exposition Picasso. Et on reproche maintenant à Picasso une attitude, semble-t-il, très, très, très méchante avec les femmes qui ont partagé sa vie. Et donc, l'exposition présente des toiles de Picasso, mais tout de suite à côté, il y a des toiles peintes par des femmes. Soit à côté, soit en face, de l'autre côté du corridor. Et donc, là aussi, bon, je me dis, est-ce que tout ça, vers quoi on s'en va avec ça? Donc, je me suis vraiment posé beaucoup de questions.
Est-ce que c'est comme un découragement, cette espèce de constat de dire, on veut revoir l'histoire, on veut réécrire les événements? Et il y a comme une tendance qui est quand même forte de gens qui sont un peu dogmatiques et qui disent, voici maintenant la nouvelle façon de faire la lecture de la vie, là.
Ouais, c'est ça. Alors, c'est exactement ça. Puis il y a ça, puis il y a aussi, disons, les deux spectacles de Robert Lepage qui ont été annulés à Montréal, là, Slave, et puis après... Canada, mais Canada n'a même pas eu lieu. Là. Il a pas pu monter ce spectacle parce qu'on disait qu'il n'avait pas consulté les Premières Nations. Alors, il y a eu tout un mouvement pour ça. Ça aussi, je me suis dit, mais là, est-ce que avant avant de faire quoi que ce soit, il faut commencer par consulter. Mais là, ça a pas de sens. Ça a peut-être du sens, mais c'est un univers qui, on entre dans un univers qui m'est étranger, si vous voulez. Ou par exemple, le jeune homme là, qui a écrit un roman qui est bien reçu en France, là, où, puis son texte a été corrigé par une lectrice sensible. Là, je me disais, mais je peux pas imaginer Hemingway ou Louis-Ferdinand Céline faisant corriger le roman par une lectrice sensible. Ces gens-là n'auraient pas toléré ça une seconde. Mais là, maintenant, c'est à la mode parce que l'auteur lui-même est fier de ça. Il dit « Je suis très content d'avoir été corrigé par une lectrice sensible ». Et donc, c'est mon inquiétude, je veux dire, devant le monde qui s'en vient, c'est juste ça. C'est, vers quoi s'en va-t-on et comment... pour moi, l'œuvre d'art, c'était l'endroit de la liberté. C'était là où on peut s'exprimer en toute liberté, sans aucune contrainte, etc. Et c'est ça qui fait la valeur de l'œuvre d'art. Si ce n'est plus ça et qu'avant de faire une œuvre d'art ou un geste artistique, il faut d'abord consulter tout le monde, il faut avoir des lectrices sensibles, il faut avoir ci et tout... Là, c'est plus l'art tel que moi, je l'ai toujours conçu, si vous voulez.
Mais je voyais dans le film, par exemple, les protestataires qui dénoncent la présence d'une toile, ce ne sont pas des membres des Premières Nations, ce sont ce qu'on appelle des citoyens concernés.
Voilà.
Et on se demande assez rarement qui sont derrière les protestations, qui ces gens-là représentent.
Mais c'est toujours ça. C'est exactement ça. C'est... Parce que dès qu'il y a en général une protestation, c'est pris pour du cash, c'est-à-dire dans le sens que oui, il y a des gens qui protestent contre les loyers à Montréal, bon, mettons, quelque chose comme ça. Et c'est le frappu qui proteste. Puis moi, j'ai toujours envie de savoir, c'est qui le frappu? Ils sont combien? Est-ce qu'ils ont... Et qui sont leurs officiers? Ont-ils été élus? Ils ont été élus quand? Etc. Quand il s'agit, par exemple, d'action syndicale, on est très, très rigoureux. Est-ce que c'était tous des détenteurs de cartes? Est-ce qu'ils ont voté pour la grève? Puis les journalistes suivent ça exactement et tout ça. Et on sait que si une grève des travailleurs unis de l'automobile est déclenchée, les votes sont comptés au vote près. Et quand la grève a lieu, c'est parce que vraiment elle est approuvée par une majorité de gens, etc. Quand il y a des protestations au coin d'une rue avec des gens avec une pancarte, la moitié du temps, on sait pas qui sont ces gens-là, puis on sait pas qui ils représentent. Et bon, Emmanuel Macron a eu on peut penser ce qu'on voudra d'Emmanuel Macron, mais sur les grandes manifestations qu'il y a eu en France...
Les gilets jaunes.
Après ça, ouais. Les trucs de ce printemps contre les retraites, il a dit à un moment donné, oui, mais c'est le Parlement, ce sont des gens élus. Si j'ai l'appui du Parlement, j'ai l'appui de gens élus. Les gens qui sont dans la rue, ils n'ont pas été élus par personne. Et qui représentent-ils? On ne sait pas. Est-ce que c'est juste eux-mêmes ou s'ils représentent plus que ça? On ne le sait pas. Donc, c'est embêtant de céder tout toujours à la foule, si vous voulez.
Mais le film, ce n'est pas que ça.
Non.
Et c'est ce personnage, Jean-Michel Bouchard, qui conteste pas ce qui arrive, qui prend acte de.
Oui. Ce qui est aussi ma position. Parce que c'est pas une protestation contre les nouvelles tendances ou ce qui arrive. Et ça,
c'est pas de nier le droit des Autochtones de revendiquer.
Ben, surtout pas. Absolument pas. Tout le monde a le droit de revendiquer, tout le monde doit faire ça. Sauf que je me dis, vers où allons-nous, c'est tout. Parce que je suis un homme d'un certain âge, comme mon héros, et mon héros se dit, mais où est-ce qu'on s'en va? Et donc, c'est ça. Le film, c'est juste ça, en fait. C'est où est-ce qu'on s'en va? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est l'avenir qui nous attend? Question, évidemment, à laquelle il n'y a pas de réponse. Mais au moins, on peut jouer avec cette idée-là.
Mais en même temps, le personnage découvre que c'est probablement tout près de lui qu'il va trouver une certaine paix, une certaine...
Ouais, c'est ça. Ben ça, je pense que ça, c'est ma petite... c'est ma petite solution à moi personnelle qui me dit que, finalement, dans une époque de si grands bouleversements comme celle qu'on vit en ce moment, c'est parce que c'est des bouleversements terribles qui ont été peu vécus dans l'histoire de l'humanité. Alors là, on est en train de se demander si la planète va survivre d'ici un siècle. Je lisais récemment des trucs sur l'intelligence artificielle où des gens disaient que d'ici 20 ans, l'intelligence artificielle va avoir contrôlé la majeure partie des communications, la majeure partie de tout ce qu'on va voir sur les écrans, dans les micros et tout ça. Bon, alors devant tout ça, moi je me personnellement, je me dis, bon, la seule solution, là, individuellement, c'est d'essayer de se créer un petit bonheur personnel, un petit espace, soit avec sa famille, soit avec ses amis, soit avec une communauté quelconque, et puis d'essayer de se protéger dans la mesure du possible et d'essayer de se trouver une espèce de petite zone de bonheur où on peut continuer à vivre et respirer à peu près convenablement. Ça, c'est ma solution personnelle et c'est la solution que trouve le héros, finalement.
Sur le plan de la réalisation, c'est un choix de montrer plusieurs exemples dans le film, que ce soit avec des personnes âgées, que ce soit avec des récipiendaires de prix,
ouais,
des politiciens avec la langue de bois et le discours et tous les acronymes qu'on connaît, d'avoir une palette très large.
Ouais.
C'est un choix?
Oui, c'est un choix parce que si on parle de ça, là, des bouleversements de la société, ça a plusieurs facettes, cette chose-là. Alors, c'est plusieurs choses en même temps. Bon, puis des fois, les gens disent, oh, c'est exagéré, le trait est lourd, etc. À ça, je réponds, il y a des choses invraisemblables qui se passent. Comme par exemple, j'ai déjà été présenté à la délégation générale du Québec à Londres aux autorités britanniques du cinéma, c'est-à-dire le Channel 4, le fonds spécial pour le cinéma, etc. Et tout ça. Et le délégué général du Québec a dit, « Ladies and gentlemen, our best Quebec filmmaker, Claude Jutras. »
En te présentant?
Oui, en me présentant à moi, Claude Jutras. Bon, alors, si vous pensez que Jean-Michel Bouchard peut être confondu avec Michel-Marc Bouchard... Oh,
c'est possible.
C'est entièrement possible. Je l'ai vécu. C'est pas... c'est rien de...
Alors, ce que tu dis, c'est qu'il n'y a pas de caricature.
Ben, c'est-à-dire qu'il faut toujours grossir un petit peu le trait, parce que... c'est ça qui provoque la comédie. De tout temps, la comédie, c'est... se moquer des travers d'une société. Et pour s'en moquer, on grossit un peu le trait. Il est probable que les médecins du temps de Molière étaient pas si stupides et si cupides que Molière les décrit, mais ça nous fait encore rire aujourd'hui. Et ainsi de suite. Les femmes à l'époque d'Aristophane dans Lysistrata ont peut-être pas mené une grève sexuelle contre leur mari, mais ça fait rire 10 siècles plus tard. Bon, ben c'est la même chose que je fais. Les prix littéraires qui sont donnés qu'à des femmes avec des femmes extravagantes, etc., c'est probablement un peu exagéré, mais ça, c'est pas... On est dans une comédie, donc une comédie, ça sert à ça.
Chacun de tes films est toujours très attendu. Et ouais, chacun de tes films provoque souvent des discussions, des débats. Comment tu vis avec ça?
Écoute, j'essaie de vivre le mieux possible, mais c'est con. Là, maintenant, c'est plus facile, maintenant. Parce que comme je suis vieux, je suis rendu à mes derniers films, je suis habitué à ça, ça a été ça toute ma vie. Donc, tu comprends, le premier film que j'ai fait, c'était un documentaire d'une demi-heure sur Samuel de Champlain, et il y a un député du Nouveau-Brunswick qui s'est levé en chambre à Ottawa demandant que je sois congédié de l'Office national du film et qu'il espérait que je ne puisse plus faire aucun autre film. Ça, c'est mon premier, et c'était un documentaire sur Samuel de Champlain. Faut le faire, là.
Ouais.
Puis après ça, quand j'ai fait On est au coton, j'ai été traité de communiste, de marxiste-léniniste. Après ça, j'ai été traité de séparatiste, d'indépendantiste. Et puis après ça, de bourgeois, embourgeoisé, et puis là, maintenant, je suis réactionnaire. Je veux dire, il est temps que je meure, là, parce que on n'aura plus de mots dans le vocabulaire.
Denis, merci beaucoup d'être venu ce matin.
Bienvenue.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
Mais là, voyons, un peu de délicatesse, crétin, là, quand même. C'est que là, maman nous a écrit une lettre. Et le timbre est de Perry.
Oh, nous autres, on en a reçu une de la Jamaïque.
My God, à triple la bonne femme.
Salut, ma jolie. Tu cherches la perle rare, eh bien, voilà ton huître ici qui...
Moi, je suis retournée en psychiatrie, imagine-toi. Déposée en soins...
C'est un événement. Le retour de la petite vie 30 ans plus tard. Les 6 épisodes de 30 minutes sont disponibles depuis ce matin sur la plateforme tout.tv Extra. Claude Meunier est avec nous. Bonjour Claude.
Bonjour Paul.
Comment vont les émotions ce matin après la présentation à la presse? Tout le monde en parle. Comment ça va?
Je suis heureux de voir que ça sort enfin. Je suis content que ça sorte. On a hâte que les gens les puissent les voir. On a eu un super beau tournage. Ça marchait très, très bien devant les spectateurs quand on a joué. Hier, on a eu un très bon visionnement. Mais on a hâte que ça sorte parce qu'on est rendu là. On est rendu à la sortie. Et je suis content que, en même temps, j'avais un sentiment mitigé. Je me disais, sortir toute la gang ensemble, c'est peut-être pas le fun. Ça va déjà être fini. Les gens vont les regarder en deux temps, trois mouvements. Mais en même temps, c'est le fun parce qu'il y a une grande variété de sujets, je pense, dans la série. Puis il va en avoir pour pas mal tous les goûts, je pense, en tout cas. Ouais.
Il y a Marc Labrèche qui a dit hier, et je trouvais ça intéressant, que tu avais su garder l'essence de tes personnages. Pas essayer de les réinventer tout en les faisant quand même évoluer au fil du temps. Ce sont les mêmes individus, mais qui ont été, ouais. Qui ont vu leur vie changer aussi, là.
Ben en fait, c'est, je suis pas parti de l'extérieur, tu sais, je suis pas parti du fait qu'aujourd'hui, je sais pas, moi, il y a des transgenres, on parle des Tinder, je suis pas parti sur les changements sociaux. Puis là, voir comment mes personnages ont réagi, je suis parti à l'envers. C'est-à-dire, j'ai suivi les personnages, puis j'ai imaginé comment ils seraient aujourd'hui. Puis c'est sûr, bon, ben, je parle de ça. Il y a un peu de Tinder, il y a un peu d'affaires d'aujourd'hui, mais il y a beaucoup de la vie de tous les jours. C'est pas. J'ai pas voulu faire. Comment dire, donc, de juste montrer qui sont aujourd'hui, là. Tu sais, ça se passe. C'est eux autres qui ont vieilli, surtout. C'est ça qui a apporté les idées, parce que je. C'est ça. Je me suis inspiré des personnages qui ont évolué, qu'il y en a qui sont rendus rénal est rendu cardiaque. Sa femme a toujours de faire des annonces pour faire un peu d'argent de poche parce qu'il n'y a plus d'argent. Il était à la retraite puis il capote sur l'argent. Rénal est toujours dans des magouilles. Régent est toujours dans des magouilles. Timmy est esselé, il s'ennuie de moment. Thérèse est rendue à une agence de voyage astral. Ils s'en vont tous dans d'autres affaires, si on peut. Mais c'est les mêmes personnages, c'est la même famille, c'est les rapports entre la famille.
La surprise hier...
C'est surtout un show de rôle.
Oui, hein? On va y revenir, mais la surprise hier, ça a été d'apprendre que Serge Thériault avait accepté de participer au dernier épisode à la toute fin. On va écouter un extrait.
T'étais parti où, toi, là?
À l'épicerie.
À l'épicerie? Depuis 6 mois?
Six mois, voyons, je suis parti à 15 minutes.
Ouais. Hey, méchant rêve, j'ai fait un méchant rêve, moi, là.
C'est vrai. Mmh. Ah, mon Dieu, j'ai oublié d'acheter du beurre.
Du beurre? Non, wow, ce coup-là, j'y vais avec toi, minute, là. J'aime tellement ça, acheter du beurre avec toi, maman.
Il est rendu fou du beurre, là.
Oui, fou du beurre.
Catherine me disait que hier, tout le monde avait une larme à l'œil et peut-être même plus en regardant l'épisode. J'imagine toi aussi.
Ben oui. Oui, j'avais surtout la larme à l'œil avant qu'il arrive parce que je voulais être sûr qu'il arrivait. Mais j'ai eu la larme à l'œil en le voyant, mais tu sais, j'ai écrit, j'étais avec lui, j'étais ému, mais ça, j'étais ému de le voir arriver en studio.
Comment c'est arrivé? Est-ce que dès le départ, quand tu dis je vais revenir avec des épisodes, dans ta tête, il y aurait une place en sachant pas s'il allait dire oui?
Ouais, c'est exactement ça. C'est que j'espérais qu'il vienne faire un tour à la fin. Quand j'ai entendu qu'il ne ferait pas venir, quand j'ai compris qu'il ne serait pas là, je l'ai appelé puis j'ai dit, écoute, là, tu accepterais peut-être de venir à la toute fin. Puis on a dit, tu sais, ça fait longtemps que j'ai écrit ça, Paul. J'ai écrit ça, ça fait 1 an et demi, 2 ans presque. Fait que j'ai parlé il y a 1 an et demi, 2 ans, puis là, j'ai parlé il y a peut-être 8 mois. Donc, on se parlait des fois, on échangeait. Puis j'appelais au téléphone, puis j'ai compté les épisodes, il trouvait ça bien drôle. Puis là, vers le mois de... Il m'avait dit, ben au printemps, on verra. Puis j'ai parlé au mois de mars, puis il dit, oui, j'irai. Fait qu'on l'a fait venir en studio, on a tourné ça dans un petit un studio réduit, dans une petite... avec personne ou presque. Puis on l'a présenté devant du monde qui ont réagi après pour avoir des réactions. Mais c'était très secret et très fermé parce qu'il voulait pas être avec tout le monde là, puis à affronter toute l'équipe. Tu sais. Mais ça s'est très, très bien passé. Puis il va bien, Serge, quand même, de ce temps-là. On s'est parlé encore hier. Là. que j'y ai compté le lancement. Puis il a hâte de voir les épisodes. Il doit être en train de les écouter, là. Il est peut-être debout après les écouter.
Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait, tu penses, qu'il a dit oui?
Ben, c'est notre amitié, je pense. Puis je pense qu'il il adore la petite vie. Il aurait aimé ça, d'être capable de le faire dans le temps. Puis je pense qu'une affaire bizarre, c'est que... Ben, bizarre. Serge aimait beaucoup toute la gang, la petite vie, tu sais. Puis lui, ça le... Il n'avait pas le goût d'être... Il voulait mettre... C'était une sorte d'endossement du fait qu'on le fait, tu sais. En quelque part aussi, je pense. Parce qu'il capote ses acteurs, puis... Tu sais, j'y parlais des personnages, où est-ce qu'ils étaient rendus. J'y parlais que, tu sais, que justement, que Thérèse a fait des voyages astrales, puis qu'elle a une agence de voyages astrales, qu'elle fait faire des... Il trouvait ça bien drôle. Puis c'était une manière à lui de... Puis j'y parlais des comédiens. Puis c'était une manière à lui de, d'endosser l'affaire. Je sais pas comment l'expliquer vraiment. Tu sais, fait que... C'est ça. Il avait le goût de participer à sa manière, puis il avait le goût de dire que... C'est un geste d'amitié aussi envers toute l'équipe, tu sais.
On revient à la base, tu l'as souligné tantôt, essentiellement, ça marche parce que c'est drôle, puis que les personnages sont évidemment des personnages extrêmes dans leur style, mais il y a ce langage aussi qui est marquant, là, qui fait que la série est tellement populaire qu'elle va passer en reprise pour l'éternité. non, mais c'est quand même ça la réalité. Ce langage-là, aujourd'hui, ça marche encore.
Tu sais, Paul, la petite vie, c'est comme une bulle, moi, je pense. Tu sais, puis quand j'écris moi-même, je rentre dans une sorte de bulle, tu sais. Ils ont un langage particulier. J'ai l'impression qu'ils sont ailleurs, sont en parallèle de la réalité. Puis c'est une bulle, c'est très ludique, hein. C'est comme on, c'est un drôle, j'ai eu ce mot-là, là, ça fait un peu intello, mais c'est très ludique. Ça dit, c'est une bulle où on rentre, puis les références sont différentes. Puis on parle de n'importe quoi, puis c'est un univers en soi. Nous autres, je disais ça à la blague, mais on joue à la petite vie. Tu sais, c'est comme c'est un univers qui se peut pas. C'est juste le fun. C'est un plaisir de jouer ça. Puis c'est des blagues, c'est du burlesque absurde. Il y a le côté physique qui est drôle. Il y a des jokes ordinaires, puis il y a des jokes bien songés. Il y a toutes sortes d'affaires qui apparaissent à mesure qu'on l'écrit, que je travaille, puis. Je parle pas juste de moi, je parle avec José Fortier. Puis c'est ça, c'est vraiment un plaisir, c'est du plaisir, c'est ça, puis c'est jouissif, puis c'est complet, c'est comment dire, c'est un monde en soi, puis c'est comme embarquer dans quelque chose qu'on aime beaucoup, comme les Simpsons, comme je sais pas comment l'expliquer trop. J'aime autant l'écrire que l'expliquer finalement.
Mais ce qui est frappant. C'est que je me souviens à l'époque de la première diffusion, puis bon, avec les nombreuses reprises, ce langage de la petite vie, on le retrouve aussi dans le quotidien parfois. De comment ce qui va, là, c'est toi qui l'as inventé, ça.
Ouais, mais ça venait de quelqu'un qui le faisait déjà, que j'avais remarqué. Le barbier Ménèque, qui disait toujours comment ce qui va. Puis moi, finalement, qu'on s'est mis à parler comme ça, puis là, on l'a appliqué au personnage. Mais il y a des néologismes qui sont arrivés, même dans les annonces de Pepsi avec ses songés. Dans le même, là. C'est peut-être pas une belle parole de la langue française, mais c'est rentré dans le langage populaire. C'est un honneur, tu sais, que si tu veux que je te dise, c'est comme, c'est que les gens s'habituent à ça, puis ça fait partie de leur vie.
Est-ce que ça va se limiter à 6 épisodes ou déjà pour l'instant?
Oui. Pour le moment, c'est sûr. J'ai pas le goût. J'aime pas ça de dire non, j'ai pas le goût. Pas parce que j'ai décidé d'en faire d'autres, parce que c'est plate de dire ça quand tout le monde est content. Ben là, en tout cas, je vous le dis, j'en fais plus d'autres. Ça me fait plaisir que le monde dise j'espère que tu vas continuer, mais j'ai pas l'intention de continuer tout de suite. Puis je suis pas là du tout. Mon idée, c'est d'en faire 4, puis là, je n'ai fait 6, parce qu'il y a beaucoup de matériel. Puis on a eu tellement de fun, Paul, mais tellement de fun à les faire, mais pas juste parce qu'on riait, mais à les répéter, à les tourner, je peux te jurer. Puis on était tellement étonnés de voir la salle, les gens dans la salle, parce qu'on tournait toujours devant le public, là, deux fois chaque épisode. Puis le monde dans la salle, je pensais que les premiers temps, j'ai eu une crainte que ce soit tout du monde de mon âge. Mais c'était du monde de tous les âges. Il y avait du monde de 30, 40, 50 ans, puis des groupes d'étudiants. il y a une sorte de transmission, tu sais, du samedi soir parental, le monde écoute ça avec leurs enfants, fait que les enfants viennent voir ça, ils connaissent ça, c'est ça qui est fun. C'est un show rassembleur, c'est tout ce que je vise, moi, Paul, un show rassembleur drôle, que les gens écoutent ça, puis qui rient comme dans le temps, puis je pense qu'il y en a qui vont rire encore, puis il y en a peut-être qui vont rire moins, ou plus.
Oui, et là, je vais te mettre dans une situation intenable, comme tu l'as été un peu dimanche, tout le monde en parle. C'est présenté, c'est disponible là, sur ici.tv extra, ce qui fait que c'est réservé pour les gens qui payent, alors que, me dit-on, ça va être au début de 2024 à Radio-Canada. Dans le fond, là, un diffuseur public qui a entre les mains une pièce du patrimoine de la télé québécoise qui reprogramme à répétition en reprise, m'a semble qu'il aurait pu l'offrir gratos au monde.
On dirait que je m'entends parler, Paul. Mais...
en tout cas, Marc Labrèche a bien fait ça dimanche.
Ben, Marc il a poursuivi mon élan. Moi, j'étais plus poli. Puis je comprends, en fait, pour faire un petit résumé, je comprends que Tout.tv est important. Puis moi, je suis un fan de Tout.tv parce que j'écoute quand même pas mal Tout.tv. Il y a beaucoup de documentaires que j'aime, puis je réécoute des vieilles émissions, puis tout ça. Puis, tu sais, c'est à peu près la seule plateforme vraiment québécoise qu'on a qui est dans ce genre-là. Mais moi, ce qui m'a déplu surtout, c'est le délai. Tu sais, si le délai avait été d'une semaine ou de 15 jours, mais tu sais, comme tu dis, c'est juste que c'est 3-4 mois. Mais c'est plate. C'est plate là-dessus pour les fans. Puis effectivement, il y avait peut-être une obligation de tu sais, ça appartient au Québec, cette série-là, ça appartient au monde. Mais cela dit, comme j'ai dit aussi après, je veux pas juste parler de l'horaire de la petite vie, je veux parler de la petite vie. Fait que je veux pas en faire un cas à chaque fois.
On va s'en occuper d'en faire un cas.
Faites-en un.
Claude, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Hey Paul, ça m'a fait plaisir. À bientôt, mon ami.
Salut, bye-bye. Claude Meunier, donc, c'est disponible sur ici.tv extra. C'est pas pour en faire, disons, une cabale, là, mais ça demeure une pièce, je le disais, du patrimoine de la télé québécoise. Radio-Canada a profité, et c'est bien correct, là, a profité de la petite vie à plusieurs reprises. On a reprogrammé, on a offert ça aux gens, puis les gens étaient toujours présents au rendez-vous. On parle de 6 épisodes. Je comprends qu'il y a une plateforme pour laquelle les gens sont prêts à payer un abonnement pour des séries originales, pour des documentaires, pour des produits qui arrivent comme ça. Mais mettons que la petite vie, là, on aurait pu offrir ça gratos aux Québécois. Je pense que collectivement, nous le méritons.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan, les grandes entrevues de la semaine.
Aujourd'hui, je me décide à chanter en joie. Je suis cool, je suis cool, je suis cool. C'était les jours où j'étais en amour. Quand c'est bon de goûter un peu de bonheur, dis-lui bonjour. Dis-lui que je ne l'attends plus. Je dois prendre le dernier train. Sors ta guitare, sors ton piano, tes vieilles cuillères, ta boîte à bois ou tes...
Gilles Valiquette, bonjour.
Bonjour.
Gilles Valiquette est tombé dans la marmite musicale à quoi, 10-12 ans à peu près?
Ah, 12 ans pour sûr.
12 ans, puis il n'en sortira jamais, si j'ai bien compris.
Vous avez bien compris.
Un nouvel album, une tournée. Tu as toujours été présent, des fois plus effacé, plus discret. Qu'est-ce qui fait que là, tu as le goût de monter sur scène avec des musiciens puis d'aller comme ça à travers le Québec te promener?
Ben, moi, au départ, je me considère privilégié de gagner ma vie dans le domaine de la musique. Maintenant, il y a des choses qui paraissent face au public, puis il y en a d'autres, comme tu dis, qui sont un petit peu derrière la scène. Alors moi, j'ai apprécié chacun de ces moments-là. Pour moi, c'est tout aussi important. Alors, je n'ai jamais arrêté de faire quoi que ce soit. Mais dans le cas des spectacles puis des disques, soyons réalistes, là, ce sont les producteurs qui décident s'ils veulent s'investir dans les chansons de tel ou tel artiste. Alors souvent, quand il y en a un qui disparaît de la circulation pour quelques années, tu sais, pour moi, la question est pas où est l'artiste, la question c'est, hey, qu'est-ce qui arrive avec les producteurs?
Mais là, t'arrives sur scène. Puis là, évidemment, des succès, on vient d'en entendre. Il y en a un, puis tu sais, plusieurs comme ça. Est-ce que c'est de la nostalgie aussi de dire, là, je ramène mes hits, puis j'arrive avec un nouvel album? Mais espèce, parce que hier, j'écoutais La Gang de la Petite Vie,
ouais.
25 ans.
Ouais.
Y a d'autres groupes qu'on voit qui sont encore en train de tourner, même s'ils ont 70, 80. Est-ce qu'il y a beaucoup de nostalgie dans ça?
Ben, je pense que oui. Je pense que les chansons transportent avec eux les trames sonores de nos vies. Alors, des fois, on entend là une chanson qui date peut-être, mais on peut pratiquement sentir l'endroit où on était quand on a entendu ce truc-là pour la première fois. Mais moi, je vais vous dire personnellement, je passe pas mon quotidien à chanter mes soi-disant grands succès. Mais quand vient le temps d'un spectacle comme tel, puis là, on commence une des chansons connues, puis là, je vois les sourires dans les visages. Puis c'est une drôle d'affaire parce que même si je n'ai pas l'énergie, disons, d'exécuter la chanson comme telle, je l'emprunte de ceux qui sont dans la salle. Puis là, c'est ça un petit peu qui est le soutien puis qui donne l'envol à tout le spectacle. Alors, je me considère chanceux d'avoir des chansons que les gens connaissent. J'ai souvent dit que créer une chanson, à mon avis, c'est un peu comme mettre un enfant au monde. En quelque part, on peut en connaître les parents assez facilement, mais ces chansons-là ont leur propre vie. Puis là, où est-ce qu'ils vont se rendre au fil des ans, on ne sait pas. Mais moi, à chaque fois, je remercie le public d'avoir accueilli ces chansons-là à la maison, puis de les avoir fait, eux, en fait.
J'allais te dire, là, on ne va pas se vieillir inutilement, là, mais quand même. Je me souviens, j'étais ado, je suis cool, puis bon. Et c'était une effervescence musicale assez incroyable, puis de création, pas juste de musique, mais de création, puis d'artistes jeunes qui en imposait à ce moment-là, puis qui prenait la place. On n'était pas juste des gens qui traduisaient des chansons américaines qui étaient des gros succès, on créait notre propre musique.
Exactement. Moi, ce que je dirais là-dessus, c'est ma vision des choses, c'est que relativement à d'autres pays, notre domaine du disque et domaine de la scène au Québec a pris son envol un peu en retard. Moi, je mets le point de départ là, Michel Louvain, Buenas Noches, Mi Amor, 1957. C'est là qu'on a eu le modèle où on a un artiste populaire, il y a un gérant, il y a une maison de disques, il fait des tournées, il y a des fans. Puis, je veux dire, encore aujourd'hui, on est grosso modo là, sur le même modèle. Alors, pendant les années 60, là, le domaine est dans son adolescence. Puis, je peux comprendre pourquoi c'était essentiel d'avoir des succès
rapides.
Ou alors, ça explique les fameuses versions et tout ça. Mais rendu dans les années 70, là, on a acquis un peu de maturité, disons. Puis là, on est tombé synchro avec la mode internationale qui était pas mal la mode américaine. Autrement dit, les auteurs, compositeurs, interprètes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'auparavant, être un auteur, c'est une vie comme telle, là. Être compositeur, c'était une autre vie. Si tu faisais les deux, auteur, compositeur, là, c'était une exception. Alors, auteur, compositeur, interprète, vous imaginez. Alors là, au début des années 70, on a ces nouveaux énergumènes-là qui font les trois. Aux États-Unis, c'était les Carole King, les James Taylor. En Grande-Bretagne, c'était les Nick Drake, John Martin. Alors, le Québec, à ce moment-là, était synchro avec le reste de la planète. Puis c'est là, ben, en quelque part, Richard-Marie-Claire Séguin, moi, j'étais dans le coup, on a eu Beau Dommage, on a eu Harmonium, puis là, effectivement, tu mets tout ça ensemble, puis là, t'as une génération, là. Mais on est tous venus de la même place, hein. On a commencé à l'époque des groupes dans les années 60. Mmh. Ensuite de ça, on a fait la fin des cafés étudiants, chacun de notre côté aussi. Alors, quand les années 70 arrive, puis disons qu'on à ce moment-là, on valorisait tout ce qui était d'ici, tout ce qui était québécois. Alors là, on avait la recette là, pour quelque chose d'explosant, disons. Ça fait que...
Est-ce que c'est moins vrai aujourd'hui?
Ben c'est moins vrai aujourd'hui parce que le grand public a beaucoup plus d'options, surtout au niveau du divertissement. T'as des centaines de canaux de films, t'as la radio d'ici, toute la radio d'internet, t'as des disques qui nous viennent de partout. Alors, ma génération à moi, on était avide d'informations. Moi, je me souviens, j'allais voir les orchestres dans des salles de danse, pas pour danser, je voulais voir où le guitariste mettait ses doigts. Puis là, je courais à la maison pour essayer le même truc. Mais là, aujourd'hui, si je voulais faire le même truc, tu sais, je me branche sur Internet. Puis là, il y a plein d'informations. Qu'est-ce que je vais piger là-dedans? Je sympathise beaucoup avec les jeunes aujourd'hui parce que comment se définir? Vous avez dit plutôt que, tu sais, je savais où je m'en allais à 12 ans, c'est vrai, mais aujourd'hui, quand on voit les plus jeunes, des fois, ils ont passé la vingtaine, puis c'est encore difficile pour eux autres là, de choisir...
Mais t'as touché à tout quand même, là, la production de la musique de séries, de l'instrumental, donc
ouais.
D'accompagner des œuvres, d'autres artistes aussi.
Ouais.
Qu'est-ce que t'aimes le plus faire?
Ben justement, c'est la variété que j'aime bien faire parce que de chaque projet, de chaque créneau, ça alimente ce qu'on sait pour être meilleur dans un autre créneau parallèle. Alors, il y a des vases communicants, là. Puis moi, je me considère chanceux d'avoir pu là, sauter là, d'une pierre à l'autre. Là. Alors, je me considère bien chanceux.
Quand on est sur scène, là,
ouais.
Puis qu'on voit la réaction, là, c'est pas comme à la télé, c'est pas comme quand... La réaction du public. Puis du public, j'imagine, un peu tous les âges aussi, parce
ouais,
que
c'est vrai.
Il y a des parents qui t'ont sans doute imposé à leurs enfants. Là. Ça donne quoi comme sensation? Qu'est-ce que tu observes de la salle?
Ben, moi, la façon dont je vois ça, c'est que souvent, les musiciens, les créateurs de chansons, ils sont pris dans un sous-sol, en quelque part, ou un grenier, puis là, ils vont passer des heures, des jours à créer leurs chansons. Puis là, finalement, là, on va commercialiser ça, ça arrive sur le marché. Puis souvent, les gens réalisent pas, mais souvent, tout ce qu'on a à court terme, c'est ce que 2-3 personnes ont écrit dans le journal, là. Puis, soyons réalistes, là, c'est jamais mauvais, mais c'est pas nécessairement toujours bon non plus. Alors, on a l'impression que peut-être on pourrait faire mieux. Alors, on retourne dans notre sous-sol, on retourne dans notre grenier, puis là, on fait une autre chanson. Puis les mois passent, les années passent, puis les chansons s'accumulent. Mais quand on arrive en spectacle, puis on commence une chanson de notre répertoire, puis là, on voit les visages s'allumer, là, tu dis, ah ben, hey, peut-être que j'ai fait quelque chose de bon, finalement. Alors, c'est très encourageant comme tel, puis ça
est-ce qu'il y a des chansons qui t'ont étonné par leur rayonnement, par leur succès? Tu t'es dit, bon, je l'amène dans l'univers, là, mais c'est peut-être pas ma meilleure ou c'est peut-être pas celle qui va marcher le plus.
Ben, quand on a lancé Je suis cool, c'était en réponse à la maison de disques qui disait, hey, Gilles, ça nous prend un hit sur la radio commerciale. Puis là, en jeune fanfaron que j'étais à l'époque, là, vous voulez un hit, on en fait un. Ça. Mais je m'étais pas attendu à ce que ça soit si gros que ça. Mais ma vraie surprise, c'est La vie en rose. Quand j'ai fait La vie en rose, c'est une chanson que j'ai fait, là, quelques heures avant ma dernière session d'enregistrement là, pour l'album que je travaillais à ce moment-là. Quand on écoute la chanson attentivement, là, on voit il y a 3 couplets, il y a 3 refrains, mais il y a pas de pont, il y a pas de participe. J'ai pas eu le temps de le faire. Alors j'ai compensé par la ligne de guitare un peu à la façon Beatles. Puis là le disque est sorti. Puis là la première entrevue que je fais avec un des pionniers du domaine, Monsieur Édouard Rémy,
oui.
Il me demande, il dit Gilles, Monsieur Valiquette, il dit votre nouvelle chanson La vie en rose. Pourquoi vous avez choisi le même titre que la célèbre chanson d'Édith Piaf? Puis là, ça a fait comme boum dans ma tête.
T'avais pas réalisé avant.
Dis-moi pas que j'ai fait ça. Alors, J'étais à sa déprime. Puis là, je reviens avec mon agent de promotion. Je dis, il faut qu'on change de stratégie parce qu'il n'y a rien qui va arriver avec cette chanson-là. On peut pas se mesurer.
Pourtant.
Et pourtant. Voilà. Ça fait que, juste pour te montrer comment que les artistes ne connaissent rien.
Gilles, merci beaucoup d'être venu ce matin. On peut trouver facilement c'est ta tournée 50e anniversaire quand même.
Ben en fait, cette semaine, on célèbre le 50e anniversaire de la sortie de mon premier album qui était Chanson pour un café. Et pour l'occasion, je l'ai refait. Puis la raison pour ça, c'est que quand on est arrivé à mon premier album, c'était à partir de maquettes que j'avais fait. Alors, on a habillé mes maquettes, puis ça a fait un album. Il y a quelle belle journée là-dessus, puis tout ça. Mais moi, dans ma tête, j'avais fait des maquettes pour qu'un chanteur, une chanteuse, quelque part, ramasse une des chansons. Alors, j'ai lancé une bouteille à la mer. Puis finalement, c'était un début de carrière pour moi. Mais là, je me retrouve 50 ans plus tard, c'est moi qui trouve la bouteille. alors, je me suis mis dans la tête que je suis maintenant l'interprète des chansons de qui j'étais quand j'avais 20 ans. Alors, ça devient un projet intéressant, à mon avis, puis c'est ça qu'on offre. Là. Le lancement est officiellement cette semaine, vendredi.
On écoute un extrait. Merci beaucoup d'être venu.
Ben, merci à toi, Paul.
Gilles Valiquette.
Voici une chanson pour un café. Voici une chanson pour des amis. Voici une chanson pour dire merci.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
Parlons maintenant de bouffe. Vous le savez, ça coûte cher et on attend toujours le résultat du plan de l'action de grâce commandé, pour ne pas dire imposé, par le ministre François-Philippe Champagne aux géants de l'alimentation, les détaillants puis les fabricants. Hier, le sous-gouverneur de la Banque du Canada a résumé la situation, et pas juste dans le domaine de l'épicerie. Il a dit que les entreprises ont profité de l'inflation, s'en rendant compte que malgré les prix élevés qui ont suivi la fin de la pandémie, que les gens étaient prêts à acheter. Autrement dit, se sont dit, ben ça coûte plus cher, mais ça change rien aux ventes. Les gens sont prêts à payer plus. Ils payent plus, ce sont donc les consommateurs qui ont mis plus d'argent sur la table. Et donc, que ces entreprises ont nourri l'inflation en se disant, je peux augmenter mes prix. Maintenant, on le voit, mais avec, disons, des impacts réels sur le panier d'épicerie. Il y a une autre étude qui est publiée ce matin par l'Université Dalhousie sur la façon que les consommateurs font leur choix en alimentation. Qu'est-ce qui a changé dans leurs priorités? Sylvain Charlebois est avec nous. Monsieur Charlebois, bonjour.
Bonjour, Paul.
Comme on dit, les gens votent avec leurs pieds, là. Il y a des phénomènes qu'on observe très clairement, là, sur les changements d'habitude.
Oui, absolument. En fait, on a sondé tout récemment plus de 5 000 Canadiens, 1 200 Québécois. Ce que les répondants nous disent, c'est carrément là, ce sont les prix qui sont priorisés au supermarché. C'est devenu un facteur plus important que la nutrition. Point. Et c'est pour ça qu'il y a plus d'achalandage qui est dirigé vers les bannières à rabais. Il y a aussi beaucoup de Québécois qui ont décidé de visiter plus souvent les magasins du dollar. Alors, c'est pratiquement la moitié des Québécois qui priorisent le coût des aliments plus que la nutrition depuis un an. Donc, c'est beaucoup.
Mais ça veut dire que les gens regardent leur budget, voici ce que je suis capable d'acheter, puis il faut manger, on a des enfants. Et là, il y a des trucs peut-être moins bons pour la santé, un peu plus junk, qui coûtent moins cher que des fruits et des légumes.
Ben, c'est ça. Il y a une chose qui n'est pas mentionnée beaucoup dans les médias ces derniers temps, c'est que en raison du coût des loyers, les hypothèques qui augmentent en paiement, on le sait bien, là, ça met beaucoup de pression sur les ménages. Alors, ce qui se passe actuellement, là, par capita, les dépenses à l'épicerie ont diminué depuis un an. Ils n'ont pas augmenté malgré l'inflation, malgré l'augmentation des prix. Alors, les gens qui arrivent à l'épicerie, là, ils font extrêmement attention. Ils vont peut-être acheter d'autres marques moins chères. Ils vont acheter des produits moins chers. Ils vont éviter le frais, comme vous venez de le mentionner, là, les légumes, tout ça. Là, on évite la périphérie du magasin et on se concentre vers le centre.
Et ça peut durer combien de temps, cette tendance-là? Est-ce que on voit là, ça peut changer vite, mais de revenir à des habitudes un peu plus saines, ça peut jouer dans quoi? Ça peut se passer si vraiment là, l'inflation baisse, si on est plus en contrôle des prix?
Ben, c'est une bonne question. En fait, le dernier coup dur qu'on a vécu, c'était en 2008 avec la crise financière. L'inflation alimentaire avait atteint 15% à l'époque en passant. C'est beaucoup plus que maintenant. Le problème qu'on vit actuellement, c'est que l'inflation alimentaire a demeuré élevé pendant très longtemps. Donc, on programme le consommateur à être beaucoup plus économe. C'est un peu ce qu'on a vécu au début des années 80. Moi, je m'en souviens, quand on allait à l'épicerie, on achetait des produits qui étaient en spécial point final. Donc, on programme le consommateur à rechercher des prix points. Donc, on va considérer toutes sortes de produits qui sont de moindre qualité, malheureusement. Puis je pense que ça va durer encore un certain temps. On crée une nouvelle génération d'économes à l'épicerie présentement, à mon avis.
Est-ce que vous avez des échos des préparatifs chez les bannières, chez les fabricants, là, la stratégie de l'action grasse? Est-ce que c'est en train de se faire pour vrai?
J'ai parlé avec le ministre Champagne jeudi quand j'étais à Montréal et puis je pense qu'il va avoir un plan là. Je sais pas qu'est-ce qu'il va avoir dans le plan là. Mais moi j'ai l'impression qu'il va y avoir deux choses. Il va y avoir des éléments plus pour le long terme, donc code de pratique, bureau de la concurrence, réforme qui est nécessaire bien sûr. Mais probablement que le ministre Champagne va viser aussi, va présenter des mesures à court terme visibles, faciles à comprendre. Comme genre la réduflation. Là. Donc, étiqueter les produits qui ont été réduits récemment là, pour laisser, en fait, pour inciter les gens à croire que Ottawa fait quelque chose avec l'inflation. Mais vous savez, Paul, là, de voir un gouvernement intervenir dans les règles du marché, fixer les prix, contrôler les prix, tout ça, je suis pas certain que c'est une bonne idée pour le Canada si on veut augmenter la compétition. Là.
Merci beaucoup, Sylvain. Bonne journée.
Bonne journée.
Au revoir. Sylvain Charlebois, qui est le directeur du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentation à l'Université Dalhousie.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.